Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être brisé.
Alléluia. Amen. Amen. Dieu soit loué. Je vous invite à prendre place et sans tarder à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans le Nouveau Testament. Dans le livre des Actes des Apôtres, il paraît que nous sommes dans un moment qui s'appelle la fête de l'Ascension. Et c'est pourquoi j'aimerais que l'on lise quelques versets de la parole de Dieu qui vont nous replacer dans le contexte de cette Ascension du Seigneur. Et j'aimerais interpeller vos consciences ce matin sur ce que le Saint-Esprit voudrait nous dire et nous communiquer au travers de ces quelques paroles des Actes, Actes, chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 4 jusqu'au verset 14. Il s'agit de moments qui suivent la résurrection. Le Seigneur apparaît à ses disciples à de multiples reprises. Le moment vient où il va remonter vers son Père, et voilà sa déclaration, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Littéralement, vous serez immergés dans le Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Les disciples ont eu le privilège de passer 3 années de leur vie aux côtés de Jésus, le Fils de Dieu, le Messie. Ils ont eu le privilège que peu sur la terre ont pu savourer, le privilège de vivre à côté du Seigneur, le privilège d'accompagner Jésus. Ils l'ont suivi pendant 3 années sur les chemins d'Israël, dans les villes, dans les villages. Ils ont mangé avec lui, dormi à ses côtés, et puis ils l'ont vu exercer son ministère, un ministère de guérison, de délivrance, un ministère de réconciliation. Ils ont vu Jésus en direct, en live, proclamer la parole du royaume. Ils ont vu Jésus réprimer les démons. Ils ont vu Jésus commander aux sourds d'entendre, à l'aveugle de voir, aux muets de parler. Ils ont vu Jésus réprimer les forces des ténèbres parce que l'onction était et est encore sur lui. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire, sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. C'est ce que la parole déclare. L'onction qui était sur Jésus était une onction de puissance qui brisait le joug. Cette onction libérait, affranchissait, émancipait et conduisait les hommes et les femmes dans une rencontre personnelle avec Dieu. Jésus manifestait le royaume de Dieu grâce à son message et grâce à l'onction qui était sur lui. Et ils l'ont vu. Ils l'ont vu être saisi par les Romains. Ils l'ont vu être traîné devant les leaders de ce monde. Ils l'ont vu être maltraité. Ils l'ont vu être frappé. Ils l'ont vu être injurié. Ils ont vu les crachats. Ils ont vu les insultes. Et ils ont eu peur. Ils se sont enfuis, terrifiés, terrorisés. Ils ont vu le berger être lié. Ils l'ont vu leur être arraché. Ils l'ont vu être mené à la croix. Et là, sur cette croix entre ciel et terre, Jésus a donné sa vie pour nos péchés. Ensuite, on l'a mis dans un tombeau. Et le troisième jour, la Bible déclare qu'il est ressuscité. La Bible déclare qu'il est sorti du tombeau. La Bible déclare qu'il est vivant. Et ils l'ont vu parce qu'il leur est apparu à ses témoins choisis d'avance, comme le dit la parole de Dieu. À plusieurs reprises, Jésus leur est apparu. Jésus ressuscité a été manifesté. Et ils ont pu voir le Seigneur de gloire. Bien plus qu'un grand leader religieux, bien plus qu'un prophète. La parole faite chair, crucifiée, a été ressuscitée le troisième jour. Et sa parole n'est pas parole d'homme. Sa parole est parole de Dieu. Sa parole est parole de vie. Sa parole est parole prophétique. Et alors qu'ils se tiennent devant le Seigneur, ressuscités, alors la question vient, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume de Dieu? Est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume en Israël? Est-ce que cette saison, cette période du rétablissement du royaume en Israël est arrivée? Vas-tu enfin nous délivrer de l'oppresseur romain? J'aimerais vous poser une question ce matin. Comment Dieu peut-il rétablir ce qui est déjà établi? Comment Dieu peut-il rétablir un royaume indestructible et inébranlable? De quel royaume parlaient les disciples? Lorsque Jésus parle du royaume de Dieu, il parle du royaume de Dieu. En anglais, le mot « kingdom », « the dominion of the king », « the dominion », le domaine, l'espace, l'univers, la place où le roi règne en maître. Lorsque nous parlons du royaume de Dieu, nous parlons de l'espace, de l'univers, de l'endroit où Dieu règne. Et Jésus dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et Jésus déclare cette parole révolutionnaire. Il dit, ce royaume sera en vous. Et j'aimerais vous poser moi une autre question ce matin. Qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien est une personne de nature terrestre dans laquelle Dieu vient établir son règne et prendre la première place sur le trône de son cœur. Alléluia! Vous pouvez offrir une acclamation, Seigneur, pour ça. Un chrétien est cet univers d'un être humain dans lequel Dieu prend toute la place et est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas établir le royaume? Comment pouvons-nous réclamer le rétablissement d'un royaume qui déjà est établi dans notre vie? Un royaume qui est éternel, immortel, invisible et pourtant présent. Un royaume qui habite ma vie, habité, rempli, du Saint-Esprit? Quel réveil suis-je en train de poursuivre? Quelle idée du réveil suis-je en train de poursuivre? Après quel concept du réveil suis-je en train de courir? Alors que le Seigneur Jésus a déclaré dans Jean 7, verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, comme le déclare l'Écriture. » Il y a 2000 ans, c'était à Jérusalem. On célébrait la fête. Pendant toute une semaine, il y avait eu des réjouissances. On avait dansé, on avait joué de la musique. Le peuple de Jérusalem avait célébré la réalité de cette nation. Hommes et femmes ensemble faisaient la fête. Mais cette fête était marquée par un moment spécial. Le dernier jour de la fête, ce jour que tout le monde attendait, où le sacrificateur devait entrer dans le temple afin d'y accomplir des libations, offrir un sacrifice, et de ce sacrifice dépendait l'approbation de l'Éternel sur le peuple. Et alors que tout le monde était à l'entrée du temple, alors que le sacrificateur officiait, alors que les administrateurs du temple étaient en action, étaient à l'œuvre. Le peuple était à l'entrée du temple dans l'expectative. Après une semaine de fête, il y eut un grand silence qui a couvert Jérusalem. Et cette voix du Seigneur a retenti, brisant ce silence et proclamant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Avez-vous soif? Avez-vous soif de Jésus? Est-ce qu'il y a cette soif en vous? Est-ce que Jésus, la source d'eau vive, libère les fleuves dans votre cœur? Ou est-ce que vous êtes en train d'attendre un réveil potentiel, un réveil utopique, un réveil nostalgique, un réveil que vous vous êtes forgé après lecture de tel ou tel livre, où il était question de tel mouvement dans tel pays, où Dieu s'est manifesté de telle et telle manière ici ou là, où est-ce que vous vivez 24 heures sur 24, ravitaillés par ces fleuves d'eau vive que Jésus donne à chaque chrétien? L'apôtre Paul déclare, il viendra un temps, il viendra une saison, et nous sommes frères et sœurs, le peuple de Dieu, pour cette saison-là. Comprenez bien quelle est votre mission. Comprenez bien quel est votre mandat ce matin. Comprenez bien quelle est votre vocation. Vous n'êtes pas n'importe quel peuple. Vous êtes le peuple de l'Éternel que Dieu s'est suscité pour cette époque-là, pour cette saison-là. Vous avez peut-être eu le privilège de lire des ouvrages où il s'agit d'un réveil au Pays de Galles avec un évangéliste qui s'appelle Stuart. Peut-être avez-vous lu aussi les ouvrages où il est question de John Wesley, qui était un homme de réveil, dont le ministère a été marqué par 37 émeutes, dont le ministère a été marqué par des foules où il y avait des signes, des prodiges et des miracles. Peut-être avez-vous entendu parler de tel réveil qui s'est produit dans tel ou tel endroit du monde. Et ces réveils avaient pour la plupart d'entre eux un arrière-plan protestant, un arrière-plan catholique dans lequel il y avait des bases chrétiennes, des bases de la Bible, des bases de Dieu, où Dieu existait. Mais comprenez-moi, réalisez qui vous êtes ce matin, à quelle saison vous avez été appelé, dans quel moment de l'histoire de l'humanité Dieu vous est appelé. Dieu vous a appelé. Vous vivez dans une époque où il y a plus de 10 000 religions sur la terre. Vous vivez dans une époque où il y a des gourous. Vous vivez dans une époque où il y a des messies. Dans la seule ville de Los Angeles, plus de 400 personnes déclarent être le messie. Vous vivez dans une époque où il y a des faux prophètes, des faux docteurs. Vous vivez dans une époque de grande confusion. Alors, vous ne pouvez pas vous offrir, entre guillemets, une sorte de luxe de vie chrétienne que vous allez passer sans l'onction du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous êtes condamné à mort. Vous êtes condamné à mort sur le plan spirituel. Une église qui n'a pas la puissance du Saint-Esprit est condamnée à l'agonie spirituelle. Le cœur de mon sujet ce matin est celui-ci. Plus d'onction. Plus d'onction. Plus d'onction. Plus d'onction. Plus d'onction, Seigneur. Seigneur, plus de ton esprit. Trop de chrétiens ont les yeux levés vers le ciel. et regarde le Seigneur remonter dans sa gloire, mais ne se tiennent pas sous la douche du Saint-Esprit. Où es-tu ce matin? Est-ce que tu es un chrétien professant le Seigneur ascensionniste qui remonte dans sa gloire et tu es là en le regardant disant « Seigneur, quand le réveil viendra-t-il ? Quand enverras-tu le réveil afin que je puisse devenir un chrétien selon ton standard ?» Afin que je puisse vraiment vivre une vie chrétienne digne de ce nom, parce que pour l'instant, ma vie chrétienne n'est pas comme elle devrait l'être, alors pourquoi vais-je perdre mon temps à mettre en pratique ta parole, puisque ton esprit n'est pas là, et puisque nous ne vivons pas un réveil? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Seigneur, mon ministère de prédicateur ne sera vraiment béni que lorsque tu visiteras la France avec une vague de l'Esprit, parce qu'à ce moment-là, il y aura des signes, des miracles et des prodiges. Pourquoi? Parce que tu penses que tu seras plus spirituel le jour où il y aura des signes, des miracles et des prodiges? Les signes, les miracles et les prodiges ne nous rendent pas meilleurs. La nation d'Israël vivait le miracle permanent. La Bible dit qu'ils étaient tous sous la nuée. La Bible dit que la viande leur tombait du ciel. La Bible déclare qu'ils pouvaient boire au rocher. Écoutez-moi, de la viande plein la bouche et de l'eau plein la barbe. La Bible dit qu'ils sont morts dans le désert. Ils sont morts dans le désert. Qu'attendons-nous? Pourquoi attendons-nous ce qui était répandu? L'Esprit a été répandu une fois pour toutes. Alors, peuple de Dieu, n'attends plus le passage d'une vague de l'Esprit, puisque les douches de l'Esprit de Dieu sont ouvertes, l'Esprit est répandu, ça n'est plus une promesse, c'est un fait. Et ce qui est fait, dois-je l'attendre encore? Si Dieu l'a accompli, c'est pour moi maintenant. Alléluia! Alors, à la fin de ce sermon, nous allons prier pour que l'Esprit de Dieu vienne vous revigorer, parce que la parole de Dieu déclare dans le prophète Michée que le juste, il est plein de force et il est plein de vigueur. Il n'est pas au ras des pâquerettes en train de mordre la poussière, mais celui qui connaît l'Éternel, il est rempli de l'Esprit de l'Éternel. Il est plein de force, il est plein de vigueur, même si c'est le désert autour de toi, même s'il y a toutes ces sectes, même s'il y a tous ces faux prophètes, même si dans notre nation il y a la puissance du péché, même si notre nation est en train de s'égarer loin de Dieu et que l'athéisme grandit en France, même si l'occultisme tient des places, nous avons déjà acquis la victoire parce que la Bible le dit. Nous avons mis notre pied sur la plage comme le premier Djihad l'a fait pendant la guerre 45 et au prix de sa vie, au prix de son sang, il nous a acquis la victoire. Alléluia! Et nous avons déjà cette victoire acquise. C'est à nous maintenant de réaliser, de prendre conscience et d'avoir l'esprit libéré de ce voile que Satan a mis sur nos consciences pour que nous passions à côté de la plus belle promesse et de la plus belle puissance que Dieu nous a donnée, celle de l'Esprit du Père. Et cet Esprit vous donne inspiration, révélation et puissance. Amen. Dieu nous a promis un esprit de révélation, un esprit d'inspiration et un esprit de puissance. Alors si je lève les yeux vers le ciel, ce matin ce n'est plus pour regarder un Seigneur qui monte, mais c'est pour recevoir la douche du Saint-Esprit qui m'a été promise. Dans le psaume 133, vous connaissez, « Voici ô qu'il est agréable pour des frères, et j'ajoute, et des sœurs, de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu fait couler sa bénédiction. C'est là qu'il envoie la rosée pour l'éternité. » Lorsque nous sommes sous une douche, nous sommes revêtus, nous sommes couverts. Le Saint-Esprit vient dans notre vie comme un revêtement, comme un manteau, comme une couverture, comme une pluie, comme une fraîche rosée. Nous sommes dans le désert de ce monde, nous sommes dans un pays où l'iniquité s'accroît, où l'amour se refroidit, où la foi disparaît, mais nous, nous sommes frais comme le juste qui est présenté dans le prophète Jérémie, parce que nous avons nos racines qui descendent dans le fleuve de Dieu, dans le fleuve de l'Éternel. Alors dans ce fleuve, nous puisons le rafraîchissement pour nos âmes. Et nous ne pouvons voir la puissance dans notre vie chrétienne qu'à la seule condition où nous recherchons par les racines de notre communion avec Dieu, l'intimité avec le Saint-Esprit. Les gens aujourd'hui voudraient de la puissance sans l'intimité On ne pourra pas avoir de puissance sans plénitude. 1. Timité. 2. Plénitude. 3. Puissance. Seul un chrétien rempli pourra avoir de la puissance dans sa vie chrétienne. Mais le seul moyen d'être rempli nous condamne à la communion avec Dieu. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas d'onction facile. Les gens voudraient aller au ciel au prix de l'enfer. Mais si nous voulons vivre l'onction du Saint-Esprit, il y a un prix à payer. Jean-Baptiste a dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Je ne suis pas même digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Et de feu. Ça vous intéresse le feu? Lorsque je parle du feu, je parle de combustion. Lorsque je parle de feu, je parle de destruction. Il n'y a pas de baptême dans le Saint-Esprit sans destruction du péché et sans destruction des œuvres charnelles, des œuvres mortes dans notre vie chrétienne. Amen. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Un véritable baptême du Saint-Esprit, c'est la réalité de l'œuvre profonde du Saint-Esprit dans notre cœur qui détruit le règne du péché et toute sa puissance collatérale, tout ce qui va avec. C'est pourquoi les traditions, les dogmes, la réalité ne nous rendra pas plus spirituels. Parce que la religiosité et les traditions ne peuvent se substituer à l'œuvre du Saint-Esprit. La religiosité et les traditions ne peuvent nous sanctifier. La Bible dit qu'en fait, elles annulent la puissance de la parole de Dieu. Le seul qui a le pouvoir de nous sanctifier, c'est le Saint-Esprit opérant avec le ministère de la parole. Et le Saint-Esprit nous rappelle ce que nous avons lu dans la parole de Dieu. Alors si nous développons une relation avec Dieu dans sa parole, si nous puisons les racines de notre vie chrétienne, si nous les enterrons, si nous les plongeons dans l'eau de la parole, alors l'eau de la parole va nous donner les vitamines spirituelles pour tenir debout dans cette génération. Amen. Et là Dieu va nous rappeler sa parole. Dieu va nous fortifier par sa parole. Alors nous pourrons répondre aux standards bibliques, aux standards divins. Nous allons pouvoir vivre dans une vie de sainteté. Une vie de morale, une vie d'éthique, parce que le design de Dieu, le look de Dieu, c'est sainteté. Saint, saint, saint est le Seigneur. La Bible dit que Dieu est magnifique en sainteté. Si vous cherchez quel est le look de Dieu, vous inquiétez pas, c'est la sainteté. C'est son design. Voilà comment Dieu est. Dieu est saint, et parce que Dieu est saint, je ne peux pas déclarer que je suis rempli du Saint-Esprit si je vis dans le péché. Mais si je déclare que Dieu est saint, la Bible dit alors, je dois me sanctifier moi-même. Parce qu'il y a une sainteté que Dieu opère, mais il y a une sainteté dont je suis responsable. Lorsque nous parlons de sanctification, nous ne parlons pas seulement que d'abnégation, nous parlons aussi de dévotion, nous parlons de consécration, nous parlons de prix à payer. Parce que certains se sont laissés entraîner dans l'ultra-sanctification. Et ils sont devenus des spécialistes de la coupure des cheveux en quatre. Et je crois que nous ne sommes pas appelés à couper les cheveux en quatre, mais à casser les chaînes en deux. Parce que le travail du Saint-Esprit consiste à ôter le joug, à briser le joug. Et une véritable consécration, ce n'est pas simplement une sanctification, ou plutôt la recherche de la sanctification des autres, mais premièrement la sanctification de soi-même et la consécration de notre vie au Seigneur. Être saint, c'est aussi servir Dieu. Et plus je sers Dieu, plus je me sanctifie. Et Dieu déclare dans Ésaïe, chapitre 10, verset 27, un autre texte que j'avais à l'esprit ce matin, où il est question de la place que prend l'Éternel. Plus l'Éternel prend de place dans notre vie, voilà ce qu'il fait. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Waouh ! Je ne sais pas si vous avez déjà faim, mais ça c'est de la parole prophétique, n'est-ce pas ? La graisse fera éclater le joug. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit te remplit, la graisse fait éclater le joug. La présence, l'onction, la nourriture, cette puissance nourrissante du Saint-Esprit en toi, ne laisse aucun espoir au joug de Satan. Tu n'es plus sous aucun joug, tu es rempli de l'Esprit, et alors tu peux répondre aux exigences de Dieu, et ainsi accomplir ton ministère, répondre à ta vocation, et maintenant travailler avec la puissance de Dieu dans ta vie. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans Dieu. On ne peut pas faire l'œuvre du Saint-Esprit sans l'Esprit de Dieu dans notre vie. La promesse nous attend. La promesse est pour nous. La promesse est pour vos enfants. La Bible dit en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et je crois qu'il y a de l'espoir pour la France, parce qu'il y a un peuple qui a soif, et parce que je sais qu'en France il y a des résistants qui sont visités par des fleuves d'eau vive. Ils sont désaltérés 24 heures sur 24. Et parce que ce reste est animé, visité, traversé, vivifié par l'onction du Saint-Esprit, alors Satan sait qu'il a perdu dans notre pays. Est-ce que le peuple de Dieu le confesse avec moi? Nous avons cette onction qui est pour nous. Alors, nous avons des talents, nous avons des capacités. Tout cela, c'est formidable. Je ne serai pas le prédicateur ou celui qui va proclamer que tout cela doit être placé au second rang. J'aimerais vous dire que tous ces talents et toutes ces capacités, Dieu, elles viennent de Dieu. C'est pourquoi elles doivent être au premier rang. Mais ce qu'elles ont besoin, c'est de l'onction. Amen. Il y a ceux qui proclament qu'il ne faut pas utiliser tel moyen, faut pas utiliser telle méthode, faut pas faire ci, faut pas faire ça, c'est pas les chanteurs qui vont révolutionner, c'est pas la musique qui va révolutionner. Ce n'est pas non plus les prédicateurs qui vont révolutionner, s'ils n'ont pas l'esprit. Mais si un prédicateur a l'esprit, alors il crée la brèche, il produit la percée. Si un chrétien témoin a l'esprit, alors il gagne du terrain dans son quartier, il gagne du terrain dans la cité, il gagne du terrain dans la cage d'escalier, il gagne du terrain dans le bus, dans le métro. Si un homme d'affaires a l'onction du Saint-Esprit, il gagne du terrain dans les entreprises, il gagne du terrain dans l'avion. Amen. Si les chrétiens ont l'onction, elles gagnent du terrain dans les églises. Amen. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Si les chanteurs se tiennent dans la présence de Dieu, si ils se tiennent dans l'intimité avec le Seigneur et qu'ils sont loin, alors ces instruments de musique, ces voix qui retentissent, deviennent alors des outils, deviennent des béliers qui brisent les portes des citadelles imprenables de Satan. Et alors nous gagnons du terrain. L'heure n'est pas de condamner. L'heure est venue de nous tenir sous la douche de l'Esprit et de dire « Seigneur, remplis-moi afin que je sois un prédicateur et non pas un acteur. Afin que je sois un acteur et non pas un spectateur. Mais Seigneur, je sois l'agent déterminant qui va créer la brèche là où tu m'as placé, dans le domaine où je suis, parce que tu vis en moi, j'ai Dieu avec moi. » Qui sera contre moi? Et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia! Seigneur, je veux déclarer, comme il est écrit dans le prophète Samuel, la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Le cheval est équipé pour le combat. Le guerrier est équipé pour la bataille. Mais la victoire appartient à l'Éternel, peuple de Dieu. Alors, plus que de l'espoir, notre espérance à nous, elle est vivante. Nous allons prier pour vous afin que vous receviez maintenant le Saint-Esprit. Dieu va vous rafraîchir, vous renouveler, vous revigorer, vous ravitailler, vous recharger. Et dans vos églises, dans vos villes, dans vos villages, vous êtes loin de Dieu. Vous pouvez dire, je suis un agent du royaume de Dieu parce que Dieu habite en moi. Je suis dans son royaume et des fleuves d'eau vive jaillissent de mon sein. Comme le déclare la Bible, l'Écriture. Amen. On se lève dans la la présence de Dieu. Les musiciens prennent place et nous allons ensemble nous approcher du Seigneur dans un esprit de louange, dans un esprit de prière, un esprit d'adoration. Oui, permettez-moi de dire dans un esprit d'abandon, dans un esprit de renoncement, dans un esprit où nous renonçons à nos systèmes. Nous renonçons à nos systèmes de pensée pour le système de pensée de Dieu. Nous nous repentons. Nous renonçons. Je vous invite à la repentance. Je vous invite à reconsidérer vos voies ce matin. Je vous invite à procéder à un examen personnel. Je vous invite à emprunter le chemin d'un voyage intérieur et de dire, à l'intérieur, est-ce que Dieu a toute la place? Est-ce que le Seigneur est sur le trône? Seigneur, pourquoi est-ce que je suis en train d'attendre le rétablissement d'un royaume que déjà tu as établi? Seigneur, je veux te demander pardon pour cet aveuglement, pour ce manque de prise de conscience, pour ma tiédeur, pour ma froideur. Je veux te demander pardon parce que j'ai négligé ton intimité, j'ai négligé ma communion avec le Saint-Esprit. Seigneur, je veux m'humilier devant toi, je veux descendre parce que toi tu es roi et moi je ne suis rien, et quand toi tu parles, ce que je dis n'a plus d'importance, ce qui importe c'est ce que tu dis, non pas ce que je pense. Seigneur, ta parole pèse plus dans la balance que mes mots à moi. Seigneur, je viens à toi pour être un chrétien de cette génération finale. Je veux me lever, Seigneur, comme un résistant, et Seigneur, dans un pays qui sombre loin des valeurs chrétiennes, Seigneur, je veux relever le défi, faire entendre la voix de Dieu dans cette génération. Quel que soit le prix à payer, quel que soit le rejet, quelle que soit la moquerie, quelle que soit la honte, quelle que soit la calomnie, Seigneur, je sais que si je suis dans ton camp, je suis à la meilleure place. Je sais que si je suis avec toi, alors dans le ciel, j'y serai aussi. Et si je suis avec toi, déjà tu me prépares une demeure dans ton royaume. Seigneur, je ne suis plus un ascensionniste, mais je suis un pentecôtiste. Je suis quelqu'un qui croit dans la Pentecôte. Je ne crois pas simplement à une idée pentecôtiste. Je ne crois pas simplement aux valeurs d'un mouvement, mais je veux croire à la réalité de la fraîcheur du Saint-Esprit qui descend sur moi en cet instant. Seigneur, par ton feu, viens détruire en moi ce qui n'est que tiédeur, et viens par ton eau vive rafraîchir mon âme en cet instant. Alléluia, 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 terrible comme une armée sous la bannière de Jéhovah Nissi. Telle est l'armée de l'Éternel.